Morning Edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Khartoum samedi dernier. Non au régime militaire, crie la foule. Elle dénonce le récent coup d'État et la fin de la transition démocratique au Soudan. Transition engagée en 2019 avec la chute du dictateur Omar al-Bashir. C'est le dernier épisode de la répression des révolutions qui ont secoué le monde arabe ces 10 dernières années. Alors constat d'échec ou naissance d'un mouvement plus profond, l'universitaire tunisien Yad Ben Achour est notre invité dans un instant. Le bruit du monde ce soir aux États-Unis sur les bords du fleuve Colorado, au fond du Grand Canyon, son niveau ne cesse de baisser. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Legény avec la Pologne, le débat sur l'avortement et l'Inde qui prépare la fête de Diwali, la fête des Lumières. 18h50, le cinéma en VO, le conseil de Corinne Pellissier, compartiment numéro 6, réalisateur finlandais, décor russe. 18h55, le monde d'après de Franck Madvon. Pourquoi l'Australie est-elle devenue notre meilleur ennemi? Un jour dans le monde, c'est parti.
Jérôme Cadet. Un jour dans le monde.
Bonsoir Yad Ben Achour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur France Inter. Vous êtes universitaire, juriste, membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et vous avez été un grand artisan de la révolution tunisienne en 2011, puisque vous avez présidé la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution qui a accompagné la transition vers la démocratie. Cette expérience vous a inspiré un livre, Tunisie, une révolution en pays d'islam. Et cette expérience va nourrir une série de cours que vous allez donner au Collège de France, consacré aux révolutions dans la pensée et dans l'histoire des faits. Vous prononcerez d'ailleurs demain soir au Collège de France votre leçon inaugurale. Yad Ben Achour, je parlais un instant de la situation au Soudan avec ce coup d'état militaire il y a 10 jours. Dans votre pays, la Tunisie, le président Kais Saied a suspendu le Parlement au printemps, s'est arrogé l'essentiel des pouvoirs. Dictature en Égypte, chaos en Libye, en Irak, en Syrie. Diriez-vous, à la lumière de ces exemples, que les révolutions arabes ont échoué sur toute la ligne?
Jamais. On ne peut pas le dire à condition de ne pas se laisser brûler la pensée par l'actualité quotidienne.
Par l'instant.
Par l'instant. Si on se laisse envahir par l'instant, effectivement, on pourrait penser, comme vous venez de le dire il y a un instant, que c'est un échec définitif, irrémédiable, on n'en parle plus. Mais c'est oublier l'histoire et c'est oublier, puisque vous parlez du Soudan, parlons-en.
Oui.
Mais le Soudan fait sa troisième révolution. Il y a eu la première révolution contre la dictature de Brahim Aboud en 1964. Et le Soudan, pour moi, est l'un des pays arabes les plus intéressants à étudier. Donc, 1964. Après, il y a eu une deuxième révolution en 1985, et ensuite il y a eu une troisième révolution contre la dictature de Omar el-Bashir, et comme vous l'avez si bien dit, elle a abouti à la fin d'une dictature. Ces révolutions, au Soudan comme ailleurs dans le monde arabe, sont donc des révolutions démocratiques, antidictatoriales en tout cas, au moins antidictatoriales. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Nous avons de nouveau les militaires qui reviennent. Soi-disant à cause d'un conflit entre les civils du Conseil et les militaires. Mais vous avez vu ce qui se passe. La rue est toujours là. La société civile est toujours là. Et à supposer même, à titre hypothétique, que ça aboutisse à l'écrasement. Parce que vous savez, quand on met une armée avec des blindés, des armes lourdes, etc., devant une population qui est désarmée, il y a de fortes chances pour que la force brutale triomphe. Mais même dans ce cas-là, moi je dis toujours que la graine de la revendication démocratique est semée et qu'elle portera ses fruits quoi qu'il arrive. Parce que il faut voir l'histoire sur la longue période. Prenez par exemple en Europe les guerres de religion, ça a duré des siècles. la laïcité n'est pas tombée des nues comme ça avec la Révolution française. Il a failli la préparer depuis la Révolution hussite, pour certains historiens, la Révolution protestante, etc., etc. Ça a duré des siècles. Il n'y a pas de raison pour que ça dure moins de temps dans le monde arabe. Ça prendra son temps.
Vous diriez la même chose pour la Syrie où Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, pour l'Égypte où le maréchal el-Sissi tient le pouvoir d'une main ferme avec ce pouvoir autoritaire, et pour la Tunisie avec ce que vous avez qualifié de coup d'État au printemps.
Je l'ai qualifié de coup d'État, effectivement. J'ai été un des premiers, le lendemain du 25 juillet, à parler de cela. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, j'ai parlé de coup d'État contre la Constitution. J'ai toujours ajouté, chaque fois que je prononce le mot coup d'État, j'ai ajouté contre la Constitution. Pourquoi ? Parce que le président a utilisé l'article 80 de la Constitution pour etc. Bon, c'est qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. En oubliant toutefois que la philosophie générale de ces types d'articles dans les constitutions, c'est pour sauver la Constitution et non pas pour la démolir. Lorsque le général de Gaulle a utilisé l'article 16 en France, les parachutistes avaient menacé de débarquer sur Paris, tout simplement. Donc vraiment, il y avait un danger imminent, un péril imminent, selon les termes de la Constitution, contre le régime constitutionnel et contre la Constitution elle-même.
Ce qui n'était pas le cas, selon vous, au printemps en Tunisie.
Ce qui n'était pas le cas, loin de là. Et avec le décret 117 du 22 septembre 2021, cela confirme le caractère de coup d'État contre la Constitution, parce que ce décret 117 ne fait que confirmer ce qui s'est passé le 25 novembre, c'est-à-dire une suspension de la Constitution, un arrêt de la Constitution.
Tout de même, vous conviendrez avec moi, pour l'instant, la démocratie a du mal à prendre, a du mal à s'installer, c'est le moins que l'on puisse dire.
Bien sûr.
Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est un échec du modèle démocratique qui n'apporte pas de réponse aux problèmes des populations dans ces pays, ou bien est-ce qu'il y a d'autres causes, influence étrangère, crise économique notamment ?
La démocratie, à mon avis, la démocratie, c'est le soulagement des maux et non pas le mal, au contraire. Peut-être que la démocratie parlementaire, peut-être que la démocratie à l'occidental, disons, n'est pas tout à fait adaptée à nos sociétés. Cela est possible. Mais ce n'est pas le seul type de démocratie. Attention, la démocratie, c'est quatre principes fondamentaux. C'est la dignité, la liberté, l'égalité et la participation. Que ce soit par l'intermédiaire de régimes parlementaires ou de régimes présidentiels ou par d'autres moyens, l'essentiel c'est s'en tenir aux principes et non pas aux techniques. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que la démocratie parlementaire a mal fonctionné dans le régime et surtout en Tunisie. De telle sorte que lorsque le président actuel a donné ce coup de pied dans la constitution tunisienne, il a été suivi. Il a été suivi par une très grande majorité du peuple, ça il faut le dire.
Il y a eu des scènes de liesse
à Tunis.
Ah oui,
ça je l'ai vu, on l'a tous vu.
Ça vous a blessé ?
Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, au contraire, parce que c'était la fin d'une crise institutionnelle et politique énorme. Les partis qui ont gouverné la Tunisie depuis la révolution de 2011 n'ont pas su gouverner. Et ils ont dépassé toutes les lignes rouges. Le Parlement est devenu un cirque. Les lois étaient attendaient pendant des durées extraordinaires pour pouvoir être votées, dans le cas où elles étaient votées. Et donc, le Parlement est devenu un véritable cirque, un spectacle. Les partis politiques fonctionnaient très mal. Et puis, il y a eu surtout l'expansion de deux phénomènes. Le terrorisme, d'un côté, et la corruption, de l'autre côté. Démocratisation de la corruption et amplification du terrorisme.
Donc quoi, c'était trop pour une jeune démocratie ?
Bien sûr, par conséquent, lorsque le président a mis fin à ces pratiques, en gelant l'activité du Parlement, en suspendant les immunités parlementaires, et puis ensuite en prenant le décret 117, bien sûr, tout le monde l'a suivi, parce que les gouvernements successifs depuis la Révolution ont réellement dépassé les lignes rouges. Mais la chose dont ne sont pas conscients les gens, et la majorité qui soutient le président actuel, c'est que lorsqu'on concentre les pouvoirs, tous les pouvoirs, entre les mains d'un seul homme, ça finit toujours mal. Alors il y a des gens qui disent « ce n'est pas une dictature ». C'est vrai, aujourd'hui ce n'est pas une dictature, je l'avoue. Ce n'est pas une dictature. En Tunisie, on est encore libre, la presse est encore libre, mais il y a quand même des débuts. Oui, il y a des manifestations, etc. Mais attention, il y a quand même un début de répression, un début d'injustice. Par exemple, l'affaire de l'ancien ministre de l'Agriculture, Samir Taïeb, est absolument scandaleuse parce que on ne voit pas pourquoi on met les gens en prison. Il est en prison actuellement. On lui a saccagé sa maison, ce qui est un scandale énorme, pour une présomption de faute de gestion, plutôt que de faute réellement criminelle. Donc il y a des dépassements, attention, et puis de toute manière, à supposer même qu'il n'y ait pas eu de dépassement, le fait de concentrer le pouvoir entre les mains d'un seul homme, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et même le pouvoir judiciaire, ça se termine toujours mal. Donc il n'y a pas de dictature, si vous voulez, oui, aujourd'hui, mais toutes les potentialités de la dictature sont là.
Cette situation politique en Tunisie, mais aussi en Libye, en Égypte, au Soudan, elle fait dire, des deux côtés de la Méditerranée, que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Est-ce que vous entendez ce discours ou est-ce que vous le combattez ?
Oui, je l'entends. Dire comme ça, dans l'absolu, dans le général, l'islam n'est pas compatible, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens, parce que l'islam est un texte, c'est un ensemble de dogmes, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de textes, surtout d'écriture. C'est une religion écrite, codifiée dans des recueils, dans le Coran d'abord, et puis dans des recueils prophétiques qui sont très très complexes. Donc, le texte en lui-même dit la chose et son contraire. Comme tous les grands textes théologiques, tous les grands textes sacrés, il y a la chose et son contraire. Donc, la question dépend de celui qui interprète et celui qui parle. Si on interprète les textes d'une manière formaliste, très proche de la lettre du texte, etc., bien sûr, on va avoir Daesh, on va avoir Boko Haram, on va avoir les interprétations les plus radicalistes de l'islam et les plus rétrogrades. Mais il y a une autre manière de lire le texte, c'est ce que je défends un petit peu dans mon livre « L'islam et la démocratie, une révolution intérieure ». Donc, par une révolution intérieure, précisément, une lecture du texte, et il y a pas mal d'intellectuels qui lisent ainsi les textes pour donner une interprétation moderne, une interprétation démocratique du texte. Donc, dire l'islam est compatible ou incompatible, moi je vous dis, la question n'a pas de sens. Il faut dire quels musulmans sont compatibles avec la démocratie et quels musulmans ne le sont pas. Pour ça, pour cette question-là, je peux vous donner une réponse. Mais la réponse, l'islam est-il compatible comme ça dans l'absolu, je n'ai pas de réponse, je vous dis,
et
la question
n'a
pas de sens.
Et pour vous, ce qui s'est passé depuis 10 ans ne prouve pas qu'il y a incompatibilité entre l'islam et la démocratie?
Pas du tout, pas du tout. L'islam, bon, l'islam politique, si vous voulez, surtout quand il prend un caractère radical et qu'il veut absolument imposer la loi de Dieu dans le gouvernement des hommes, là, oui, il est incompatible avec la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le gouvernement des hommes pour les hommes.
Où se situe l'espoir aujourd'hui, Yad Ben Achour, vous qui avez été une figure de cette révolution tunisienne en 2011, dans la jeunesse arabe?
Dans la jeunesse, dans l'éducation, surtout dans la réforme des programmes d'enseignement, dans le rôle des intellectuels, dans le rôle de l'élite. Il y a un grand problème dans nos pays, justement, c'est que l'élite a peur d'assumer son rôle de locomotive. Ils veulent se noyer dans la foule, ils veulent se noyer dans la masse et donc perdent leur fonction de... comme le disait Nkrumah, je m'excuse, c'est une formule trop difficile, la conscientisation, c'est ça la démocratie, c'est ça les élites. Et donc, voilà, ce qu'il faut, c'est repenser nos programmes scolaires, repenser notre politique culturelle, nos politiques culturelles, ouvrir les portes à la modernité, à l'ouverture sur le monde, à l'ouverture de la technologie, etc. Donc, le problème de l'éducation et de la culture a une importance capitale.
Mais est-ce que les pouvoirs en place, là, aujourd'hui, les nouveaux pouvoirs en place, qui ont combattu les idées nées
malheureusement,
des révolutions, vont mettre en place ces programmes?
Les pouvoirs en place, d'abord, ont un problème de capacité. L'État, aujourd'hui, par exemple, en Tunisie, n'a plus la capacité qu'il avait du temps de Bourguiba pour insuffler dans la société des réformes éducatives et culturelles de grande ampleur. Donc, mais vous savez, l'histoire, ce n'est jamais une trajectoire linéaire. ça va, ça revient, ça régresse, ça avance, etc. Et ces réformes de la vie publique, de la vie culturelle et de la vie éducative prennent énormément de temps. Ce n'est pas une question d'années, ce n'est pas une question de dizaines d'années, je peux vous le dire, c'est une question de siècles.
C'est une question de siècles, ça l'a été, si on prend l'exemple de la Révolution française, par exemple, tout au long du 19e, Yad Ben Achour, puisque votre cours sera consacré au Collège de France aux révolutions dans la pensée et dans l'histoire des faits, oui. C'est vraiment du long terme.
C'est du très long terme. D'abord, la Révolution française elle-même, vous savez, elle n'est pas descendue du ciel comme ça. Elle a été préparée par de très grandes cassures au niveau de la philosophie, de la théologie, etc. Des réformes religieuses. Donc la Révolution elle-même a eu ses antécédents, a eu ses racines culturelles. Mais la Révolution française, si on prend les faits, si on prend les faits historiques, ça n'a pas été très brillant. Hein. Une révolution qui est suivie d'une dictature, celle de Bonaparte, et puis d'une première restauration, d'une deuxième restauration, la révolution de 1830, la révolution de 1848, la commune, etc., etc. Ce n'est pas très brillant. En fait, la Révolution française a apporté ses fruits plus d'un siècle après son éclosion. Mais il a fallu que des responsables politiques et des penseurs, surtout, reprennent son message. Et le plus important dans une révolution, c'est le message.
Vous rendez compte de l'impact que ça a, ce que vous dites sur des jeunes en Tunisie, en Algérie, en Libye, oui. Qui se disent, mais bon, on en a pour des, qui aspirent à la liberté, on en a pour des dizaines d'années.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Je suis désolé, les gens doivent apprendre l'histoire et doivent lire l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit, c'est l'histoire qui me l'enseigne. Moi, je me suis transformé, là, pour le cours du Collège de France, je me suis transformé en apprenti historien.
Vous êtes frotté à la question de la Révolution, vous ne connaissiez pas ou mal.
Moi, je suis juriste, donc j'ai étudié la Révolution. Et mon livre, comme vous le verrez, la Tunisie, une révolution en pays d'islam, respire le droit. C'est un livre on voit très bien qu'il a été écrit par un juriste. Quand on m'a proposé le cours au Collège de France, j'ai décidé de prendre ce thème, les révolutions dans la pensée et dans l'histoire. Du coup, je me suis transformé en apprenti historien. C'est merveilleux. C'est la meilleure expérience universitaire de ma vie. Parce que moi, j'ai 76 ans aujourd'hui, mais ça me ramène pratiquement à mon âge d'étudiant, puisque je suis en train de refaire ma pensée comme un étudiant, exactement.
Merci beaucoup, Yad Ben Achour. Je renvoie votre dernier livre, L'Islam et la démocratie, une révolution intérieure, c'est chez Gallimard. Votre leçon inaugurale demain soir au Collège de France à 18h. Puis le cours sur les révolutions, c'est à partir de lundi prochain. Tout cela, vous pouvez le suivre en direct ou en réécoute sur le site du Collège de France. Merci.
Absolument.
À vous.
Le 18-20, Jérôme Cadet sur France Inter.
La suite, le bruit du monde aux États-Unis ce soir, où on peut désormais par endroit traverser le fleuve Colorado avec de l'eau jusqu'au mollet, ce qui a de graves conséquences, nous verrons cela, pour aller jusqu'à 19h. Le bruit du monde, la suite sous les radars, Sébastien Legénie.
Nous irons en Pologne où la mort d'une femme enceinte suscite l'indignation et relance le débat sur l'avortement.
Le cinéma en VO, bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir, on va faire un petit voyage en train dans la Russie des années 90. Compartiment numéro 6 récompensé d'un grand prix au dernier festival de Cannes.
Et le monde d'après, Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Jérôme, la France et l'Australie continuent à se quereller dans la crise des sous-marins et c'est de pire en pire.
Et ça ne s'arrange pas entre les deux, c'est ce que vous nous direz juste avant 19h. A tout de suite, juste après les Normands de Cannibal. Est-ce la moche ?
Et mis au fond.
C'est l'un des paysages emblématiques de l'Ouest américain, le Colorado qui coule au fond du Grand Canyon, 2300 km de long. Le fleuve irrigue 7 États et 40 millions de personnes et il se vide de plus en plus avec le réchauffement climatique. Sébastien Paour est allé le constater à l'ouest des Rocheuses, dans l'État du Colorado, là où il prend sa source.
Anthony Prow a les mains solides du gars qui passe son temps dehors. Il vient de charger son kayak rouge passé sur le toit de son 4x4. Anthony assure qu'il a descendu tous les rapides du fleuve jusqu'au Mexique depuis qu'il s'est installé ici à Cedar Ridge dans l'ouest du Colorado en 84. À l'époque, dit-il, personne ne se préoccupait du manque d'eau.
Je crois que ma première image, c'est celle d'un col du Colorado où nous roulions et où je ne comprenais pas pourquoi les balises sur le bord de la route étaient doublées. Il y avait un poteau fixé sur un autre poteau. Et en approchant du sommet de la montagne, j'ai commencé à comprendre. Parce qu'il y avait 1,80 m ou 2 m de neige, il fallait un double marqueur. On n'a pas vu ce genre de neige depuis longtemps. Et aujourd'hui, le fleuve est si bas. Le Colorado est si bas que vous pouvez le traverser sans vous mouiller les genoux. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant.
Alarmante aussi l'image utilisée par la vice-présidente Kamala Harris il y a 2 semaines au bord du lac Mead, plus grand réservoir du pays, 900 km plus au sud sur le Colorado. Elle montre la hauteur d'eau perdue depuis 2000.
Cet écart est plus grand que la hauteur de la Statue de la Liberté. Et tout ça en seulement 20 ans.
Le manque d'eau, la famille de Paul Kemeyer y a pensé il y a déjà 125 ans. Sur les hauteurs d'Eckert, dans l'ouest du Colorado, l'arrière-grand-père de Paul a construit un petit barrage pour avoir son propre réservoir, mais ça ne suffit plus.
Je voulais planter un nouveau champ de luzerne, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que ces 2 ou 3 dernières années, nous n'avons pas eu la quantité d'eau normale pour l'irrigation. Et j'ai peur que l'année prochaine soit aussi faible. Et c'est une culture assez chère, l'achat des graines, la plantation. Et donc j'avais peur que si je la plantais, peut-être que l'année prochaine, je n'aurais pas assez d'eau pour l'irriguer. Je vais donc laisser ce champ en friche.
Et pour faire face financièrement, Paul a un deuxième emploi. Il travaille pour le département d'agriculture de l'État du Colorado. À 1 heure de route plus à l'ouest encore, Max Schmidt surveille les 4 pompes de la station hydroélectrique d'Orchard Mesa. Elles alimentent la commune de Palisade en électricité et envoient chacune 1 tonne d'eau par seconde dans le canal qui irrigue ensuite les champs de l'autre côté de la montagne.
Nous avons environ 1600 hectares de vignes et de pêchers. La vente de ces fruits rapporte environ 25 millions de dollars par an à la Grande Vallée. Si on ajoute le vin produit avec le raisin, ça monte à 40 millions de dollars. Si nous n'avons pas de neige cette année, ce sera très dur dans la Grande Vallée. Sans eau, pas d'argent. Les prochaines guerres, on se battra pour l'eau, pas pour le pétrole.
Sans eau, les sols sont secs, les incendies font des ravages. 3 l'an dernier parmi les 10 plus importants de l'État. Les feux, la chaleur, la sécheresse, le cocktail classique des étés de l'Ouest américain. Un cercle vicieux qui se lie de plus en plus dans le fleuve. Brad Udall est chercheur sur l'eau et le climat à l'Université d'État du Colorado à Fort Collins.
Un certain nombre d'études, dont certaines des miennes, ont tenté de déterminer de combien le débit diminue pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température. Et nous pensons que ce chiffre se situe quelque part entre 3 et 10% de baisse de débit par degré. C'est probablement vers le haut de cette fourchette. Et le bassin lui-même s'est réchauffé de plus d'un degré. Ça signifie donc une baisse d'environ 10% déjà causée par l'augmentation des températures.
Avec des conséquences pour l'agriculture, mais aussi le tourisme. Les grandes stations de ski comme Aspen ou Vail ont besoin d'eau pour produire de la neige artificielle, tout comme le secteur des semi-conducteurs en aval, lui aussi grand consommateur d'eau du Colorado.
Sébastien Paour pour ce reportage sur les bords du Colorado. On passe sous les radars avec Sébastien Legénie. Yes, qu'on entend, ce sont des manifestantes dans les rues de Varsovie en janvier dernier contre les lois anti-avortement du gouvernement.
Un débat très sensible en Pologne, relancé en effet depuis quelques jours par un terrible drame, Jérôme, la mort d'Isabella, une jeune femme de 30 ans. Elle était enceinte, une grossesse de 22 semaines. Isabella est morte en septembre dernier d'un choc septique dans un hôpital de Silésie. Son bébé est mort dans son ventre. Il n'était plus viable pour des raisons médicales. Et ce que dénonce l'avocate à l'origine de cette tragique révélation, c'est que les médecins en charge de la patiente ont attendu trop longtemps pour intervenir. Ils ont attendu la mort du fœtus. Isabella serait donc la première victime directe des nouvelles lois sur l'avortement votées l'an dernier par le parti conservateur au pouvoir en Pologne. L'avortement là-bas n'est désormais autorisé qu'en cas de viol ou d'inceste ou lorsque la grossesse menace la vie de la mère. En revanche, il est interdit en cas de malformation fœtale. Dans le cas précis d'Isabella, les médecins auraient donc pu pratiquer un avortement, mais ils ne l'ont pas fait. Et ce que disent les opposants aux nouvelles lois, c'est que ces textes mettent une telle pression sur les médecins qu'ils préfèrent maintenant retarder leurs interventions pour ne pas risquer d'être poursuivis en justice. Cette manifestante de 48 ans explique que c'est une tragédie pour la Pologne, une tragédie que 30 ans après la chute du communisme, on doive de nouveau, dit-elle, se battre pour notre liberté. Un nouveau mouvement vient de naître sur les réseaux sociaux depuis la mort d'Isabella. Avec le hashtag « Plus jamais ça », des dizaines de rassemblements ont eu lieu en début de semaine, dans l'espoir de faire reculer encore le gouvernement. En attendant, des centaines de Polonaises partent désormais avorter à l'étranger.
Direction l'Inde, en pleine effervescence, avant la saison des grandes fêtes hindoues.
C'est demain, en effet, le 4 novembre, que commence notamment Diwali, la fête des Lumières. 4 jours d'intenses manifestations dans tout le pays, marquées par une hausse très nette de la consommation des ménages, surtout en cette sortie de crise sanitaire. Tout le monde a hâte, explique cette Indienne sur un marché. Les gens ont commencé à sortir de nouveau cette année. Nous ferons de notre mieux, dit-elle, tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette fête soit importante. Voilà, la vie reprend son cours dans ce pays, frappé, on le sait, très durement par le Covid. Sauf que ce retour à la normale s'accompagne aussi d'un retour brutal du religieux et en particulier des hindous les plus radicaux, soutenus jusqu'au plus haut de l'État. Ainsi, plusieurs campagnes de publicité en ces veilles de fête ont fait l'objet de campagnes d'insultes féroces. Un vendeur de vêtements, par exemple, a eu le malheur d'utiliser pour sa nouvelle collection un terme en ourdou, la langue nationale du Pakistan, le grand ennemi de l'Inde. Ses produits ont été boycottés. Autre hérésie, une femme apparaissant sans bindi sur le front, sans ce point rouge caractéristique des femmes mariées. Pas de bindi, pas de business, ont lancé les hindous radicaux sur les réseaux, qui s'en sont pris aussi à un autre groupe qui a dû carrément retirer sa campagne de pub, car un couple de femmes célébrait Karwa Chauth, une fête où les épouses sont censées prier pour la longévité de leur mari. Impensable que deux femmes indiennes puissent célébrer cette tradition très patriarcale.
À l'inverse, avec une autre religion en Italie, où l'Église secoue certaines traditions dans le sud du pays.
La coutume des parrains et des marraines, une tradition millénaire qui a pris fin pour un temps, dans un diocèse en particulier, celui de Catane en Sicile. Là-bas, les autorités ecclésiastiques locales ont interdit de nommer des parrains et des marraines lors des baptêmes. L'explication est la suivante. Cette pratique au départ spirituelle s'est beaucoup trop laïcisée. Autrement dit, il n'est pas rare que les parrains ne soient pas baptisés, ni même très catholiques. Et pire encore, il est surtout très fréquent que ces parrains soient en fait des parrains de la mafia. Voilà, vous aurez peut-être reconnu, même certainement reconnu, un extrait du film Le Parrain de Coppola. La fiction n'est en effet pas très loin de la réalité. Certaines familles siciliennes se servent souvent des cérémonies religieuses pour tisser des liens, pour étendre leur influence ou pour prendre protection auprès d'un membre local de la pègre, au point que des procureurs en Sicile se sont penchés sur les actes de baptême pour mieux comprendre l'organisation de la Cosa Nostra. Cette interdiction des parrains marraines, toutefois, ne durera que 3 ans, le temps de voir si l'expérimentation est acceptée ou non par la population.
Allez en paix, Sébastien Logénie. Merci à vous. À demain, dans un instant, le cinéma en VO. Madeleine Pérou sur Inter à 18h50. Careless Love.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
Dans le cinéma en VO cette semaine, un voyage en train au cœur de la Russie. Compartiment numéro 6, deuxième film du réalisateur Juho Kosmanen qui a remporté ex aequo le Grand Prix du dernier Festival de Cannes. C'est un nouvel espoir du cinéma finlandais. Il a déjà été primé en 2016 avec son film Oli Maki, Corinne Pellissier.
Voilà, 42 ans, ultra discret. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Juho Kosmanen, c'est un cinéma sans emphase. Un premier film en noir et blanc, tiré d'une histoire vraie autour d'un vrai boxeur. Des personnages qui n'en font pas des caisses et un sens très affirmé déjà de la mise en scène qui va trouver cette fois toute son ampleur à bord d'un train, symbole par excellence des voyages en Russie. Alors il y a d'abord ces personnages que tout oppose, Laura et Liora, l'étudiante finlandaise qui veut voir Mourmansk et ses peintures rupestres face aux Russes mal élevés, provocateurs, qui sont trop forts la vodka. On imagine bien que évidemment, la cohabitation à l'intérieur d'un wagon toujours très exigu ne sera pas simple au départ. Et cette histoire qui pourrait paraître un peu banale va finalement très vite nous passionner pour son souffle romanesque, sa mise en scène et son atmosphère avec une plongée dans la Russie industrielle des années 90 et le monde ouvrier.
C'est d'ailleurs un thème de prédilection de ce réalisateur qui vient lui-même du monde ouvrier et qui voulait aussi tordre le cou à quelques préjugés.
Alors il le fait ici en choisissant d'abord deux êtres que tout oppose, qui vont finir par tomber amoureux, et en leur donnant le champ libre pour faire tomber toutes les barrières, les injonctions, les clichés hérités de nos sociétés. Plus ils vont avancer vers Mourmansk et le cercle polaire, plus ils seront seuls, entourés de neige, débarrassés de tout, libres de se découvrir dans un environnement à la fois ouaté et rugueux, un peu comme le voisin russe qui a beaucoup inspiré Juho Kosmanen.
Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est très différents, que les Finlandais sont très différents des Russes, mais moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais comme, en fait, on voit beaucoup à la Russie à travers de la politique et presque seulement, et on ne voit pas les êtres humains qui habitent ce grand pays. Et justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est les gens qui habitent et pas à la politique.
Au début de ce voyage, en fait, il y a tous ces rôles qu'on peut avoir, qui sont comme les défenses que les êtres humains peuvent avoir. Et petit à petit, ces deux personnages vont devenir un peu se fondre comme quelque chose, une entité, en fait. Si on pense au personnage principal, au début, elle a très envie de faire partie de cette intelligentsia moscovite, même si on ne sait rien de son passé, mais on comprend quand même qu'elle vient peut-être justement de la classe plutôt inférieure. Il y a plus de ressemblance avec ce gars qui travaille dans les mines que avec les gens de Moscou qu'elle pense au début, qu'elle voulait s'identifier à tout ça. Dans ce sens-là, c'est vrai, il y a ce côté des classes.
Alors voilà, le film a remporté ex aequo le Grand Prix au dernier Festival de Cannes. La réalisation est très belle et le dépaysement absolument garanti.
C'est au cinéma ce mercredi, donc c'est bon pour ce soir. Compartiment numéro 6 de Juho Kosmanen. Merci à vous Corinne Pellissier.
Jérôme Cadet, le 18-20.
La crise des sous-marins continue de faire des vagues et la France ne décolère pas après la rupture par l'Australie d'un méga contrat. 55 milliards d'euros et l'annonce d'une nouvelle alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et cette semaine, la tension avec Canberra est montée d'un cran. La relation entre la France et l'Australie est aujourd'hui très dégradée. Il sera difficile de recoller les morceaux. C'est votre monde d'après, Franck Madvon.
Oui, dans le feuilleton de cette brouille, l'épisode de la semaine compte trois actes. Acte 1, la déclaration qui rallume la mèche. C'était dimanche à Glasgow, en marge de la COP26. Emmanuel Macron est interrogé par un journaliste australien qui lui demande s'il pense que le Premier ministre australien, Scott Morrison, lui a menti avant la rupture du contrat des sous-marins. Réponse de Macron, je ne pense pas, je sais. Colère de Canberra, le dirigeant australien, que l'on surnomme ScoMo, est donc traité de menteur par le président français, qui voit dans le revirement de l'Australie une trahison. Place à l'acte 2, le texto qui fâche. Hier, après une fuite savamment orchestrée, trois journaux australiens publient un SMS envoyé par Emmanuel Macron à Scott Morrison, qui cherche alors à le joindre. Nous sommes deux jours avant la rupture du contrat. Le français n'est pas disponible et lui écrit « Dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour notre ambition commune sur les sous-marins ?» Le camp australien y voit la preuve que la France savait qu'une volte-face était possible. Acte 3, vous suivez Jérôme, la riposte diplomatique. Fureur à Paris, l'Elysée dénonce les méthodes très inélégantes des Australiens. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, remet une pièce dans la machine. Il s'est exprimé devant le club de la presse à Canberra. La révélation de textos échangés entre chefs d'État, deux pays alliés qui plus est, dit-il, est un coup bas sans précédent. Il est convaincu que la tromperie du gouvernement Morrison était volontaire et juge insensée l'attitude de l'Australie dans cette affaire.
Bon, on voit quelle est l'ambiance entre France et Australie. Ça ne nous dit pas, Franck, qui a raison, qui a tort.
Difficile d'y voir parfaitement clair dans ce dossier. Depuis la rupture du contrat des sous-marins, les Français martèlent qu'ils sont tombés de l'armoire, qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur, à part quelques critiques au Parlement australien. Mmh. En fait, il y avait un peu plus que ça. Le contrat conclu avec Naval Group n'avait pas bonne presse en Australie. Et puis la France a connu beaucoup d'interlocuteurs. Quand Scott Morrison a pris les commandes du gouvernement en 2018, ce n'était pas une bonne nouvelle pour Paris. ScoMo s'est beaucoup rapproché de l'Amérique de Trump pour contrer la menace chinoise qui l'obsède. Quant au texto de Macron, il peut en effet signifier que le président avait des doutes sur l'avenir du contrat. Mais beaucoup d'autres éléments, il faut le dire, donnent plutôt raison aux Français dans ce dossier. Pendant tout l'été, Paris a sondé ses interlocuteurs australiens et aucun d'eux n'a clairement remis en cause le programme des sous-marins. Fin août, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays se retrouvent en visioconférence. Une phrase du communiqué commun ne laisse aucune place au doute. Les ministres ont souligné l'importance du programme des futurs sous-marins.
Alors, on en parle beaucoup en France. Est-ce que cette affaire fait aussi les gros titres en Australie ?
Oui, le sujet est très suivi, peut-être même plus encore qu'en France. Il fait régulièrement la une de la presse australienne. Quoi qu'on pense de l'affaire, le gouvernement Morrison a provoqué une très vive querelle avec un pays allié. Ça ne peut pas être un succès. D'après le Sydney Morning Herald, la révélation du texto d'Emmanuel Macron a même agacé des diplomates australiens qui reprochent à leur gouvernement un acte gratuit. Ce matin, Malcolm Turnbull, le prédécesseur de Scott Morrison au poste de Premier ministre, a apporté son soutien à la France. Il parle d'une tactique grossière du gouvernement Morrison et affirme que Morrison lui a souvent menti. Il a toujours eu cette réputation. Je précise que les deux hommes sont du même parti mais ne s'apprécient guère. Le passage de témoins entre eux avait fait l'objet d'une très rude bataille politique. Quant à l'opposition travailliste, elle accuse le gouvernement d'avoir trahi la confiance de ses alliés. Scott Morrison, lui, veut aller de l'avant, passer à autre chose. Il l'a dit ce matin lors d'une visite à Dubaï. Pas question de présenter des excuses à la France. Pour l'épisode réconciliation du feuilleton, Jérôme, il faudra être très patient.
On attendra encore un petit peu. Franck Madvon pour le monde d'après. Je vous dis à demain, Franck. Le 18-20 est au milieu du guet. Dans un instant, le journal de 19h avec Claire Chaudière. Et puis ce sera le téléphone sonne. Merci d'être avec nous ce soir. À tout de suite.